France Culture.
Donc là, on a c'est une reproduction d'une photo où on voit en fait des étudiants nazis, surtout des hommes, en train de jeter les publications de l'Institut de Magnus Hirschfeld dans une benne d'un camion. Donc les gens brandissent les documents, on a des officiers ici, le portrait dressé presque en icône de Magnus Hirschfeld, comme un trophée de prise de guerre ou je sais pas. Et donc là, on peut s'imaginer que là, la benne après est en route pour l'autodafé sur la place de l'Opéra, la Bebelplatz, pour brûler les publications qui vont contre le régime nazi. Et donc les publications de l'Institut de Magnus Hirsch, de l'Institut de sexologie, font partie en fait des premières publications, des premiers livres, des premiers ouvrages qui ont été brûlés sur cette place de l'Opéra en 1933.
Magnus Hirschfeld était un sexologue et un militant pour l'émancipation des homosexuels et des transgenres au début du XXe siècle, mondialement connu à sa mort en 1935, et de nos jours largement oublié et qui n'a pas du tout la réputation qu'il mérite auprès de l'histoire.
On retient, moi je pense qu'il faut retenir le fait qu'il a créé en 1897 le premier mouvement militant pour les droits des homosexuels. Cette manière de penser homosexualité, intersexuation, transidentité, finalement de ne pas exclure aucune minorité, on dirait aujourd'hui minorité sexuelle et minorité de genre, c'est quelque chose qui le place aussi en pionnier.
Les gens de son époque connaissaient son nom. Mais à la génération suivante, à la génération d'après, nous avons perdu cet héritage. Et je pense qu'en tant qu'individu, on ne peut comprendre sa propre existence qu'en comprenant ce qui s'est passé pour les générations qui nous ont précédés. Les psychanalystes continuent de rendre hommage à Freud. Ils ont quelqu'un dans leur histoire. Les gays, les lesbiennes et les personnes transgenres, les personnes intersexes, ont eux aussi une histoire. Mais c'est une histoire oubliée.
Magnus Hirschfeld, 1868-1935, à la défense du troisième sexe, un documentaire de Camille Desombre, réalisé par Julie Bérissy.
Die Trennung der Menschheit in eine männliche und weibliche Hälfte gehört zu den Lehr- und Leitsätzen, die jedermann in Fleisch und Blut übergegangen sind. La séparation de l'humanité en deux moitiés, l'une masculine et l'autre féminine, fait partie des doctrines et des principes directeurs que tout le monde a intégrés dans sa chair et son sang. Et en effet, le masculin et le féminin sont des réalités effectives dont la dualité ne fait aucun doute. Leur interaction nous est aujourd'hui plus indispensable que jamais pour comprendre les processus vitaux. Mais c'est une erreur de se les représenter comme deux unités totalement séparées l'une de l'autre. Au contraire, le mélange des deux, toujours présent en chacun, le caractère infini des possibilités de ce mélange, qui commence avec le sperme de l'homme et l'ovule de la femme, chacun créant des organisations masculines-féminines, hermaphrodites. Ce monisme de sexe est le cœur de la création et de l'essence de la personnalité.
Hirschfeld, très tôt dans sa vie, a commencé à jeter les bases de ce qui allait finalement sa carrière.
Gérard Koskovitch, historien.
Déjà adolescent au lycée, au gymnasium, il a commencé à rédiger des articles pour la presse locale. Il s'est dirigé très tôt vers l'étude de la médecine et puis il a passé à faire ses études à plusieurs différentes universités, y compris l'université de Strasbourg, qui était en Allemagne à l'époque, et pour terminer ses études en médecine à l'université de Berlin.
He started his studies in Breslau, studying German literature.
Ralf Dose, historien.
Il a commencé ses études à Breslau, où il a étudié la littérature allemande. Mais il s'est vite rendu compte que devenir poète ou écrivain ne lui rapporterait pas assez pour vivre. Il s'est donc tourné très tôt vers la médecine. Néanmoins, Il a écrit par la suite qu'il avait toujours l'impression que les journalistes, les écrivains et les poètes étaient ses véritables collègues. Et non les médecins, les fonctionnaires médicaux et autres professeurs d'université. Il préférait les poètes et les écrivains.
Je crois à la science. Et je suis convaincu que les sciences naturelles en particulier, apporteront aux hommes non seulement la vérité, mais aussi, avec elles, la justice, la liberté et la paix. Que leur avènement soit proche, c'est mon espoir et mon souhait.
Hirschfeld est né en 1868 à Kolberg. Actuellement, c'est Kolbrzegberg. Je ne peux pas arriver à le dire. Maintenant, c'est une ville polonaise. Mais à l'époque, ça faisait partie de la Prusse orientale. Il est né dans une famille juive, mais laïque, installée dans la région depuis quelques générations. Son père était médecin, conseiller sanitaire pour la ville et très impliqué dans la vie et la société de cette ville qui était une station balnéaire très prisée par les Prusses à l'époque. Et entre la fin de ses études en médecine et l'ouverture de son cabinet de médecin à Berlin, il a passé 8 mois aux États-Unis. Il y avait un frère qui habitait Chicago. Il a commencé à faire des conférences publiques sur la santé. Il a beaucoup investigué les milieux clandestins des homosexuels aux États-Unis, et notamment à Chicago, à New York. Et là encore, il a commencé vraiment à créer les bases de ce qui allait être son travail de sa vie. Et puis, il est venu s'installer à Berlin, dans la banlieue assez chic de Charlottenburg, pour ouvrir son cabinet de médecin. Et peu après le moment où Hirschfeld ouvre son cabinet à Charlottenburg, il a reçu un patient qui était un jeune officier de l'armée allemande qui subit une dépression nerveuse assez grave. Et Hirschfeld a proposé des traitements, un accompagnement, mais finalement ça n'a pas marché et le jeune homme s'est donné la mort en laissant derrière lui une petite liasse de documents pour le docteur Hirschfeld qui expliquait qu'en fait il était homo, il était sur le point de se marier, ce qui était exigé de sa classe, de son métier, mais il était incapable de le faire, ni de rompre avec sa fiançaille, parce que ça aurait été la honte pour lui et sa famille. Et donc, il a choisi de se donner la mort. Et pour Hirschfeld, ça c'était un choc énorme. Ça l'a vraiment détourné de sa carrière prévue de médecin généraliste et naturopathe pour finalement tourner un peu plus vers la sexologie, l'étude de la sexualité et vraiment pour commencer à s'occuper du sort des personnes marginalisées à cause de leur orientation sexuelle et leur identité de genre.
Et Hirschfeld, qui était lui-même homosexuel, qui était déjà bien conscient des difficultés que vivaient les homosexuels en Allemagne, notamment du fait du paragraphe 175 du code pénal de l'époque qui pénalisait les relations entre hommes.
Florence Tamagne, historienne.
Hirschfeld va fonder le comité scientifique humanitaire en 1897. C'est alors le premier mouvement homosexuel militant dans une perspective, je dirais, triple. À la fois une volonté d'information auprès du grand public, expliquer ce qu'est l'homosexualité, alors que c'est souvent vu comme une maladie, une perversion à l'époque. Lutter pour l'abolition du paragraphe 175 et donc développer notamment une action de lobbying auprès des forces politiques et notamment du Parlement allemand, et aussi véritablement une fonction d'aide aux personnes homosexuelles, leur apporter un soutien qui peut être un soutien moral, mais qui peut être aussi leur fournir toutes sortes de ressources par rapport à la répression qu'ils subissent.
Le comité scientifique et humanitaire a eu deux démarches principales au début. C'était d'éditer encore une plaquette qui s'appelait « Ce que les gens doivent savoir sur le troisième sexe ». Je vais utiliser cette phrase du troisième sexe pour impliquer qu'entre les hommes et les hommes qui aiment les femmes qui aiment les hommes, il y a des hommes qui aiment des hommes, des femmes qui aiment des femmes, et donc ça c'est le troisième sexe. Et puis ça c'était largement diffusé auprès du public, auprès des élus, etc. On a sorti plusieurs éditions de cette plaquette. Et puis en même temps, on a lancé une pétition pour demander au Reichstag d'annuler cette loi, le paragraphe 175.
Paragraphe 175 du Code pénal allemand.
Les actes sexuels contre nature qui sont perpétrés, que ce soit entre personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux, sont passibles de prison. Il peut aussi être prononcé la perte des droits civiques.
Le paragraphe 175 induit une surveillance policière, donc surveillance notamment des lieux de rencontre, avec des arrestations qui se font souvent, par exemple, dans les urinoirs. Sous la République de Weimar, on estime qu'il y a à peu près 700 condamnations par an d'hommes pour homosexualité, mais avec des peines assez variables, et la moyenne, c'est 3 mois de prison. Alors, le problème, je dirais, c'est pas tant la durée de la peine que les conséquences que ce type de condamnation peut avoir sur la vie des individus. Bien souvent, ça peut entraîner la perte de l'emploi. Ça a des conséquences familiales qui peuvent être dramatiques. Beaucoup d'hommes qui sont arrêtés sont mariés, ont des enfants. Et ça implique aussi d'autres formes de harcèlement. De jeunes hommes, parfois des prostituées, font chanter des hommes en les menaçant de révéler leur homosexualité.
In Hinblick darauf, dass das bestehende Gesetz noch keinen Konträrsexuellen von seinem Triebe befreit.
Pétition du comité scientifique humanitaire auprès du Reichstag, 1897.
Considérant que la loi existante ne délivre aucun inverti de ses instincts, mais qu'en revanche, elle a pourchassé un grand nombre de braves gens utiles à qui la nature porte plus qu'assez préjudice et qu'elle les a poussés injustement à la honte, au désespoir et même à la folie et à la mort, même lorsque la peine n'était que d'un jour de prison ou lorsque seule une instruction préliminaire a été ouverte. Compte tenu que ces dispositions pénales ont grandement favorisé le règne du chantage à grande échelle, et la prostitution masculine hautement répréhensible, les sous-signés dont les noms répondent du sérieux de leurs intentions, animés par la passion de la vérité, de la justice et de l'humanité, déclarent que la version actuelle du paragraphe 175 du Code pénal est inconciliable avec les progrès de la connaissance. Et ils incitent le corps législatif à modifier ce paragraphe le plus rapidement possible.
Cette pétition, c'est peut-être l'élément le plus connu du comité scientifique humanitaire. Elle a pour but donc d'obtenir cette suppression du paragraphe 175. On sait qu'elle a été signée notamment par des écrivains comme Thomas Mann, comme Hermann Hesse, comme Rilke en Allemagne, même par des personnalités étrangères, Tolstoï notamment. Et Hirschfeld obtient aussi le soutien d'Auguste Bebel, qui est alors le leader du SPD, des sociaux-démocrates en Allemagne.
Et le comité est arrivé à réunir pendant presque 20 ans environ 5000 signatures. Mais finalement, ça n'a pas abouti. Notamment, il y avait plusieurs grandes associations de portée nationale de chrétiens protestants ultra-conservateurs. Et donc ça faisait une partie de la réaction plus large dans la société allemande au début du XXe siècle, une espèce de réaction anti-moderniste, les populations rurales contre les populations urbaines. C'était vraiment un clivage dans la société allemande. Et là, on a presque arrivé à changer la loi, mais finalement ça n'a pas marché.
Hirschfeld
n'était pas le premier en Allemagne à écrire sur les personnes que nous appellerions aujourd'hui homosexuels, les hommes et les femmes homosexuels. Un certain Karl Heinrich Ulrichs avait écrit une série de pamphlets dès les années 1860. Et Hirschfeld a découvert ces pamphlets qui parlaient de ces individus qu'Ulrich appelait uranistes, d'après le dieu grec Uranus. Alors Hirschfeld a réédité les travaux d'Ulrichs dans les années 1890 et a repris la théorie d'Ulrichs, à savoir qu'un homme homosexuel avait une âme féminine dans un corps masculin. Il a essayé d'adapter un peu plus cette idée au regard des découvertes médicales modernes et a ensuite développé sa théorie des intermédiaires sexuels situé entre un homme entier et une femme entière, qui ne seraient, eux, que les deux extrêmes d'une échelle plus large. Et personne, selon Hirschfeld, n'était à tous les niveaux un homme ou une femme à part entière. Car il a décrit quatre niveaux sur lesquels vous pouviez être un homme, une femme ou un être intermédiaire. Le premier niveau, bien sûr, sont les organes génitaux. Deuxième niveau, toutes les autres caractéristiques corporelles comme les seins, les hanches, les épaules. Le troisième niveau, bien sûr, est l'orientation sexuelle. Et enfin, le quatrième niveau, l'ensemble de vos gestes, votre façon de marcher, votre psyché, comment vous parlez, bouger les hanches, toutes ces choses-là, jusqu'à votre écriture masculine ou féminine.
Grand C, la pilosité. En ce qui concerne ce trait sexuel important, chez les hommes et les femmes homosexuels, on observe souvent des écarts par rapport au type moyen hétérosexuel. Pour les besoins d'une observation minutieuse, nous préférons les diviser en cheveux, barbe, poils pubiens et poils du corps. Les cheveux des uraniens sont assez souvent manifestement doux, minces et frisés et abondants dans leur ensemble. Ceux des iraniennes en particulier sont souvent relativement forts, durs et hérissés, et leur ensemble n'atteint souvent que le bord inférieur de l'omoplate, contrairement aux femmes hétérosexuelles, chez qui ils s'étendent souvent jusqu'au bord supérieur du pelvis.
In his time, he saw this is
à son époque, il s'est dit « Voilà ce que nous dit la science ». Et si la science en sait suffisamment sur la biologie humaine, alors il est clair qu'il y a ici différents types d'individus qui sont tous des êtres humains. Or, on ne peut pas être puni pour sa nature. C'était ça son idée. Et il n'a manifestement pas réalisé que, si la nature de vos désirs ou de votre orientation sexuelle est découverte, alors la science médicale pourrait bien sûr essayer de s'en débarrasser. Qu'il suffirait alors de pratiquer une opération ou de donner un médicament pour transformer un homosexuel en hétérosexuel.
Des choses qui pourraient nous paraître un peu singulières aujourd'hui, c'est que, par exemple, quand ils commencent à étudier les populations homosexuelles, ils mesurent les proportions physiques des hommes homosexuels, notamment leur taille de hanche, et en essayant quand même parfois d'y trouver des caractéristiques féminines ou de démontrer qu'il y aurait une nature biologique innée de leur prédisposition ou de leur orientation sexuelle.
Oui, dans les premières années de sa carrière, Hirschfeld a vraiment essayé d'établir des marques corporelles, de trouver dans les corps des gens des expressions de ces différences d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Mais finalement, après quelques années, il s'est finalement dit, ça marche pas, en fait. On peut pas catégoriser les gens comme ça. On peut pas trouver ces marques sur le corps, et il a progressivement laissé tomber cette théorie du troisième sexe, et pour se diriger bien plus vers l'idée d'un continuum. Tout le monde se trouve quelque part sur un continuum, hyper nuancé. Tout le monde a des petites différences, même le mec hétéro, cisgenre, le plus typé, on peut trouver quelques petites différences. Et c'est plus intéressant de tracer ce vaste éventail de différences entre les gens que d'essayer d'établir des catégories fixes. Il y avait plusieurs courants finalement du mouvement homosexuel dans les 25-30 premières années du XXe siècle. Et Hirschfeld était le leader de la courante progressiste, scientifique, positiviste. Et dans les autres courants, il y avait par exemple Adolf Brandt avec son association Die Gemeinschaft der Eigene. C'est la société des êtres uniques. Et ça, c'est plutôt dans une courante anarchiste individualiste, mais en même temps misogyniste, masculiniste, et organisée plutôt autour des expressions de la culture, de l'amitié et de l'amour entre hommes pour créer une virilité militariste, une citoyenneté axée sur le pouvoir masculin.
Adolf Brandt dans le film L'Einstein du sexe de Rosa von Proneim, 1999.
Ces créatures ne sont ni des hommes ni des femmes. Et vous mettez ces misérables rejetons de la nature au même niveau que ces garçons épanouis et glorieux. Nous n'avons pas besoin d'un médecin qui passe son temps dans les bordels et les latrines à examiner les sous-vêtements des juifs à trois anus.
Alors c'est clair que Adolf Brandt, son mouvement va petit à petit prendre une tournure de plus en plus nationaliste et élitaire. Adolf Brandt, il est aussi antisémite. Donc on voit qu'on est sur des positionnements qui sont assez différents du comité scientifique humanitaire. Hirschfeld lui-même est juif et Brandt n'hésite pas à l'attaquer sur ses origines juives. Et Brandt est en opposition totale avec la théorie du troisième sexe. Néanmoins, il peut y avoir des alliances de circonstances, tout simplement parce que Brandt, comme Hirschfeld, veut la dépénalisation de l'homosexualité, la suppression du paragraphe 175.
Troisième sexe, uraniste, intermédiaire sexuel, travesti, autant de mots inventés ou diffusés par Hirschfeld pour nommer ceux qui, jusqu'alors, n'existaient que négativement, favorisant ainsi l'émergence de nouvelles subjectivités politiques au risque de les naturaliser. Pour démontrer l'universalité des intermédiaires sexuels, il collectionne photos et images venues du monde entier, parfois marquées par le colonialisme sur lequel Hirschfeld, pourtant antimilitariste, reste alors muet. Allié à la militante féministe Helen Stöcker, le médecin soutient le droit à l'avortement, à la contraception et le droit de vote pour les femmes, devenant une figure clé du mouvement pour la réforme sexuelle. Alors que la chute de l'Empire allemand laisse place à la République de Weimar, Hirschfeld, proche du Parti social-démocrate, entrevoit l'avenir avec optimisme.
L'union de tous les citoyens d'Allemagne, l'entraide mutuelle, l'évolution de la société en un seul organisme.
Discours de Magnus Hirschfeld devant le Reichstag, 1918.
L'égalité pour tous, tous pour tous et tous pour chacun. Et ce que nous voulons encore plus, l'unité de toutes les nations de la Terre. Nous devons lutter contre la haine des autres nations, lutter contre le chauvinisme national. Nous voulons la fin des barrières économiques et personnelles entre les nations et le droit du peuple à choisir son propre gouvernement. Nous voulons un système judiciaire du peuple et un parlement mondial. À l'avenir, plus personne ne devrait dire « prolétaire, unissez-vous », mais « peuple de la terre, unissez-vous ». Citoyens d'Allemagne, ayons confiance dans le nouveau gouvernement révolutionnaire.
Et alors on présente souvent la République de Weimar comme une sorte de parenthèse enchantée pour les homosexuels en Allemagne. Est-ce que les choses sont si roses que le portrait un peu romantique qu'on peut en avoir aujourd'hui parfois ?
Il y a toute une ambiguïté, c'est-à-dire que oui, c'est une période d'effervescence culturelle. C'est vrai que Berlin, dans les années 20, a la réputation, je dirais presque au niveau de l'Europe, d'être une sorte de capitale homosexuelle, notamment à cause de la multiplication des lieux de rencontre, des cabarets, par exemple des cabarets travestis comme l'Eldorado. Mais ça va bien au-delà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes sortes d'associations, il y a des revues qui sont créées pour les homosexuels, pour les lesbiennes, pour les travestis en particulier. Donc il y a cette visibilité homosexuelle que l'on voit aussi dans l'art, que l'on voit au cinéma avec des films comme Anders als die Andern, qui est différent des autres en 1919, avec Jeunes filles en uniforme aussi pour les lesbiennes. Après, soyons bien clairs, la répression ne cesse pas. Il continue d'y avoir des arrestations. On voit que la répression est beaucoup plus intense à Munich ou à Dresde, par exemple. Il y a vraiment des décalages selon les régions.
Archives du Schwules Museum, Berlin.
Alors, on a plusieurs photos de l'Institut.
Romain Pinto, archiviste.
On voit un lit médicalisé qui ressemble à une table d'opération, une table d'examen, c'est pas très clair. On a des photos, donc ça c'est à l'intérieur. On a des photos à l'extérieur, donc de la façade de l'Institut, sur lequel voilà, s'affiche Institut für Sexualwissenschaft, donc Institut de sexologie.
C'est un gros bâtiment de deux étages, deux ou trois étages, qui fait l'angle de la rue.
Hirschfeld était, en 1919, il était mondialement connu. Il est très prolixe comme auteur, mais a sorti des articles et des bouquins à la chaîne. Il était très visible dans les médias. Et donc, Hirschfeld, en 1919, à la fin de la Grande Guerre, a décidé de créer un institut sur la sexologie, le militantisme, pour essayer de changer la vie des gens, des experts de la médecine, de la loi, etc., mais également du grand public. Donc, il a fondé l'Institut de sexologie, où on utilise souvent une traduction plutôt directe du nom allemand, l'Institut pour la science sexuelle. Et donc, cet institut, il a créé avec sa propre fortune. Il a acheté l'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville d'un aristocrate allemand à Berlin, pour créer son centre. Il y avait des cliniques de médecine, de gynécologie, de psychologie. Il avait des programmes publics, des conférences, des performances. Il y avait toute une initiative de publication. Et puis un petit musée ouvert au public, un centre d'archives, une bibliothèque ouvert aux chercheurs et chercheuses.
Cet institut est un lieu qui a de nombreuses fonctions, qui remplit plusieurs missions.
Agathe Bernier-Monod, historienne et germaniste.
Donc c'est d'abord un centre d'accueil et un refuge pour les hommes homosexuels. Un centre de soins aussi, dans lequel ils ont accès à des consultations médicales, donc avec des médecins, avec des psychiatres. Hirschfeld y organise ce qu'il appelle des thérapies d'adaptation. En fait, ce sont les ancêtres des thérapies de groupe, qui permettent donc à plusieurs hommes homosexuels d'échanger sur leur expérience, sur leurs ressentis. Ça leur permet aussi de rompre avec l'isolement qu'ils ressentent.
Ah oui, alors celle-là est super, elle est assez connue. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
On a une photo qui se trouve devant l'Institut de sexologie, qui est visiblement date de 1921. Et donc on a quatre personnes décrites comme transvestites. Certaines portent des chapeaux, des robes.
Oui, c'est ça. Alors on a à gauche une personne en costume, cravate, avec les cheveux, une sorte de banane un peu gominée comme ça. Et trois personnes à droite avec des colliers de perles, des robes, des chapeaux à plumes, qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de femmes transgenres.
Hirschfeld, avec son institut de sexologie, avait même mis en place, on va dire, une sorte de refuge pour les personnes transgenres, par exemple, qui se trouvaient coupées de leur famille, qui se retrouvaient à la rue. Et il y avait des chambres qui étaient prévues pour accueillir des personnes dites alors travesties à l'époque ou transgenres. Et on voit qu'une partie du personnel domestique de l'institut était des travestis ou des personnes transgenres qui n'auraient pas pu trouver à s'en employés ailleurs. Et les personnes travesties étaient souvent victimes d'un harcèlement policier. Donc, pour permettre justement une facilité de circulation, Hirschfeld avait mis en place des espèces de certificats, donc de laissez-passer, où apparaissait notamment le nom choisi par les personnes transgenres, avec le genre choisi, ce qui permettait d'éviter d'être harcelé par la police.
Et finalement, Hirschfeld à l'Institut était le premier à commencer à proposer des traitements chirurgicaux, donc des transitions médicales pour les femmes trans. Il y avait la très célèbre Lily Elba. Donc on a fait un film de fiction sur elle il y a quelques années. Danish Girl, et avant ça un roman. Que c'était un peintre d'origine danoise qui a fait sa transition avec quelques opérations à l'institut. Mais avant elle, il y avait Dora Richter, qui était un prolétaire, ou mieux dire une prolétaire, assignée homme à sa naissance, et qui était le premier à recevoir des interventions chirurgicales. Et là, ça fait partie de l'histoire de la Grande Guerre, parce que c'était le développement de la chirurgie pour traiter les grands blessés de la Grande Guerre. Et on a commencé à trouver des manières à reconstruire les visages gravement blessés. Et finalement, c'était des médecins, des chirurgiens qui avaient cette formation et cette expérience lors de la Grande Guerre, qui ont adapté ces formes de chirurgie pour proposer des confirmations de sexe aux personnes trans.
Il semble encore prématuré de porter un jugement définitif sur le succès de l'implantation de glandes sexuelles hétérosexuelles dans des corps d'homosexuels réalisés à plusieurs reprises au cours des dernières années. Je considère comme la confirmation la plus importante de notre conception intersexuée de l'homosexualité les résultats histologiques communiqués par Steinach dans le tissu interstitiel testiculaire des homosexuels, dont les cellules sécrétrices internes s'écartent de manière non négligeable du type normal, dans le sens où, chez les homosexuels, ces cellules directrices présentent une nature plus féminine que masculine. Si ces études se confirment, ce dont je ne doute pas, la chaîne de preuves de la détermination biologique de l'homosexualité, de toute façon presque déjà complète, sera bouclée. Le facteur décisif du sentiment sexuel contraire n'est donc pas, comme le pensait Ulrich, compris dans l'esprit ou l'âme, mais dans les glandes.
Hirschfeld a été très interpellé lorsque le physiologiste Eugène Steinach a découvert que certaines hormones étaient produites dans les testicules de l'homme et dans les ovaires de la femme. Steinach a découvert cela lors d'expériences sur des rats. Il a retiré les ovaires de rats femelles et leur a implanté des tissus de testicules et vice-versa. Sur les rats mâles, il a implanté du tissu ovarien et a découvert que ces rats implantés se comportaient désormais à la façon du sexe opposé. Les mâles se comportaient comme des femelles et les femelles se comportaient comme des mâles. Et donc Hirschfeld s'est dit, bon, si nous savons que quelque chose est là qui peut changer l'orientation sexuelle d'un individu, cela prouve bien ma théorie qu'il s'agit d'une caractéristique corporelle. Et la mauvaise conséquence de cette idée, car bien sûr, les gens ont entendu parler de cette expérience, c'est que des gens se sont présentés à l'Institut en disant « Je veux cette opération. Je veux qu'on me retire mes testicules et qu'on les remplace par des testicules hétérosexuels. Et si vous ne le faites pas, je saute par la fenêtre. Je le fais, là, tout de suite. » Et donc, quelques patients de Hirschfeld ont été envoyés à des praticiens, à des médecins qui ont pratiqué sur eux cette opération. Et bien sûr, cela n'a pas fonctionné. Ce fut un désastre complet, un désastre scientifique. Ce type d'opération a été abandonné vers 1922 ou 1923. Et même Hirschfeld a dû admettre qu'il n'avait jamais vu une opération de ce type fonctionner.
On a là des photos tirées de documents scientifiques d'Hirschfeld. Donc on a, là, vous voyez, on a différents corps dénudés. On peut s'imaginer donc qu'Hirschfeld se sert de ces représentations de différents corps dénudés pour appuyer sa théorie des stades intermédiaires. Là, on a par exemple une photo d'une statue style grec avec un canon très 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 musclé, quoi. Donc le canon, c'est-à-dire la représentation du corps très musclé. On pourrait s'imaginer très très masculin dans la tête d'Hirschfeld. Et plus là, d'autres représentations de personnes, on dirait androgynes.
Cet institut des sciences sexuelles accueille aussi des séances de questions ouvertes à, voilà, à tous. Et elles sont fréquentées essentiellement par des hommes et des femmes issus de la classe ouvrière de Berlin qui posent des questions sur la contraception, sur le plaisir sexuel ou même des questions de base sur comment fonctionne la reproduction. C'est aussi un centre d'information pour les personnes hétérosexuelles également, avec donc des consultations matrimoniales qui sont ouvertes aux futurs couples, souvent, qui souhaitent se marier, qui souhaitent avoir des enfants. Et à ce moment-là, on peut leur délivrer ce qu'on appelait un certificat d'aptitude au mariage, Heiratszeugnis en allemand. Alors aujourd'hui, ça nous semble vraiment très... Dans ce cadre, donc, les médecins examinent la compatibilité des époux et leur capacité à engendrer une progéniture saine. Puisque Magnus Hirschfeld, comme les médecins de son époque, adhère aux thèses eugénistes. Un des objectifs de la médecine, c'est d'améliorer l'espèce humaine. Et donc, Magnus Hirschfeld considère que les personnes porteuses de maladies doivent être écartées de la parentalité.
L'idée de l'eugénisme était une pensée très répandue dans les politiques de gauche des années 1910 et 1920. Ils pensaient qu'en essayant d'éliminer les maladies héréditaires, la société deviendrait plus saine. Il y avait des gens, pas seulement en Allemagne, mais aussi dans de nombreux autres pays, qui voulaient obliger les individus à n'avoir des enfants qu'après s'être échangé des certificats de santé et leur interdire de se marier si l'un des partenaires était atteint d'une de ces soi-disant maladies héréditaires. Il y avait un grand débat en Allemagne pour savoir s'il fallait forcer les gens à faire cela ou s'il fallait les laisser libres de cette décision. Est-ce que je veux échanger un tel certificat avec mon partenaire ? Et Hirschfeld était suffisamment intelligent ou suffisamment sage pour savoir qu'il n'est pas nécessaire de se marier pour avoir une descendance. Et que c'est donc une chose qui devrait être laissée à la discrétion des individus. Et donc, je pense qu'il y a une grande différence entre ces eugénistes qui disaient « Nous devons forcer les gens à faire cela parce qu'alors, notre peuple sera en très bonne santé » et Hirschfeld qui disait « Il est bon de savoir cela et tout le monde devrait le savoir, mais ensuite, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. »
Après 25 années de travaux préparatoires, j'ai fini par fonder l'Institut des sciences sexuelles à Berlin, croyant y voir le couronnement de mon existence. L'Institut disposait d'une énorme diversité de documents organisés en de nombreuses sections. De cours d'études, d'une bibliothèque spécialisée de plus de 20 000 volumes, ainsi que d'une immense collection de plus de 35 000 photographies. Et des patients provenant de pratiquement tous les pays du monde. En tant qu'institut d'enseignement et de recherche, il a été utilisé par des milliers de médecins et de scientifiques de tous les coins du monde.
Il a très certainement aimé devenir un personnage public. Je pense qu'il avait une grande estime de lui-même. Il était manifestement capable de parler à de grandes foules sans micro. Il devait être quelqu'un qui se liait facilement d'amitié avec ses patients.
De nombreuses personnes racontent que lorsqu'elles avaient un problème dont elles voulaient discuter avec lui, il les emmenait se promener dans le parc de Tiergarten et qu'elles y discutaient longuement. Ce devait être un travailleur acharné. Il donnait environ 300 conférences par an. Il y avait une conférence tous les soirs. Bien sûr, c'était une époque où il n'y avait ni radio, ni télévision, ni même de cinéma au début. Et le seul moyen de promouvoir une idée était de parler aux gens. Et c'est ce qu'il faisait.
Il était énormément productif en tant qu'écrivain. Plus que 800 titres de livres et d'articles de la plume d'Hirschfeld sortis de son vivant. Ces textes étaient traduits dans toute une diversité de langues européennes, asiatiques, etc. Il était vraiment mondialement connu. Il était très, très, très en vue de son époque. Au moment où il a fait un tour du monde pour faire des conférences au début des années 30, aux États-Unis, la presse l'appelait l'Einstein du sexe, comme un autre génie scientifique juif allemand.
Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu de vue, c'est à quel point Hirschfeld était une personnalité connue vraiment au niveau international, avec, je dirais, les avantages et les inconvénients que cela implique. Avantage parce que ça lui permet de diffuser ses idées très largement et même d'avoir une certaine vulgarisation de ses idées. Mais un des avantages, c'est qu'il est vraiment une cible aussi pour les conservateurs, pour l'extrême droite, bien sûr. Il est juif, il est homosexuel, il est de gauche. Il devient un bouc émissaire. Il est victime aussi d'attaques physiques à plusieurs reprises. Dès 1920, quand il se déplace pour des conférences, il est attaqué à Hambourg en 1920, il est attaqué à Munich de manière extrêmement violente. On pense même à un moment donné, en tout cas, qu'il est peut-être décédé. En 22, on tire sur lui à Vienne, donc il est vraiment une cible.
Il y a de très nombreuses caricatures dès le début des années 20. Donc les journaux d'extrême droite en fait, vont faire preuve d'un grand déferlement de haine à l'égard de Magnus Hirschfeld. Notamment le Stürmer, un hebdomadaire qui est publié par Julius Streicher, qui est un des idéologues du parti nazi. Et l'obsession de Julius Streicher et du Stürmer, c'est un antisémitisme, mais qui s'appuie sur la figure du juif comme pervers, comme séducteur des femmes allemandes vertueuses.
Les nazis ont fait beaucoup de propagande autour du fait qu'il y avait beaucoup de médecins juifs, et que c'était les juifs et leur sexologie juive qui cherchait à pervertir les sentiments et comportements naturels des Allemands pour détruire les Aryens.
Nichts ist möglich, wenn nicht ein Wille befiehlt, denn immer die anderen zu gehorchen haben. Von oben beginnen und ganz unten erst enden.
Dans les faits, on voit que dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les premières mesures de répression sont prises, les journaux homosexuels sont interdits, les mouvements homosexuels sont obligés de se saborder et l'Institut de sexologie est l'une des premières cibles des nazis. Il va être saccagé, pillé dès le 6 mai 1933. Je rappelle que Hitler est arrivé au pouvoir fin janvier 1933. Et on voit les premières arrestations aussi dans ces premiers mois. Ceux qui sont visés, c'est d'abord en gros ceux qui étaient les plus visibles, les hommes qui avaient déjà été condamnés pour homosexualité, certains militants, ceux qui avaient eu des relations sexuelles avec des mineurs, les prostituées notamment. Et on a les premiers envois en camp de concentration dès 1933. Alors le 10 mai 1933, c'est le grand autodafé sur la place de l'Opéra à Berlin, où on va rassembler et brûler des dizaines de milliers de livres et de documents. Tous les auteurs considérés comme anti-allemands, soit parce qu'ils sont juifs, soit parce qu'ils sont de gauche, on brûle aussi bien les écrits de Freud, de Marx, hein, que de grands auteurs allemands. Et une partie de la bibliothèque de Magnus Hirschfeld et les archives de l'Institut sont alors brûlées. On estime à peu près 10 000 hein, le nombre d'ouvrages et de documents qui sont brûlés à l'occasion.
Déjà en 1930, Hirschfeld était capable de voir, de prévoir que la politique en Allemagne tournait vers l'extrême droite. Et donc, il a organisé un tour mondial pour faire des conférences et des recherches. Donc, il était à l'étranger au moment de la prise du pouvoir des nazis. Hirschfeld était en Suisse à ce moment. Il est arrivé à Paris. 4 jours après, c'était le jour de son 65e anniversaire, pour s'installer en tant qu'exilé en France. Et quelques jours après, dans un cinéma à Paris, il a vu un film d'actualité de l'autodafé et de la destruction de sa bibliothèque et d'un nazi en train de jeter un buste d'Hirschfeld dans les flammes. Et Hirschfeld, plus tard, dans un article, a dit qu'il avait le sentiment d'assister à ses propres funérailles. La majorité de livres qu'on a détruits étaient des livres de la bibliothèque de l'Institut d'Hirschfeld. Et dans la presse, à l'époque, on a dit cela très clairement. Dans la presse en France, aux États-Unis, et les services de propagande nazis ont dit « Regardez, on a détruit la bibliothèque d'Hirschfeld. » Et puis après la Seconde Guerre mondiale, on a continué à parler de ce grand auto-da-fé en oubliant, en effaçant l'origine de ces livres et tout l'aspect de la destruction du travail d'Hirschfeld.
Nous sommes ici dans la bibliothèque et les archives de la Magnus Hirschfeld Gesellschaft, la société Magnus Hirschfeld. Notre bibliothèque se compose essentiellement d'ouvrages antérieurs à 1933. Nous essayons de reconstituer les fonds de l'ancien Institut des sciences sexuelles détruit en 1933. Nous avons quelques livres, très peu, provenant directement de l'ancien Institut.
On estime
qu'il détenait environ 10 000 volumes, peut-être 15 000. Ce que nous avons ici, ce sont 40 ouvrages de cette collection marqués du cachet de l'Institut. Voyons voir. Parfois, on y trouve des dédicaces personnelles. Nous avons bien sûr une collection des études de psychologie sexuelle de Havelock Ellis, le sexologue britannique. Il y a un volume de Geschlechtskunde, de Hirschfeld, son ouvrage principal en 5 volumes, avec beaucoup d'images. Il y a aussi une collection de petites brochures sur des thématiques gays et lesbiennes, datant de la période comprise entre 1897 et 1933. D'autres articles sont éparpillés dans le monde entier. On ne sait pas exactement comment ils sont arrivés là. Nous savons qu'après l'autodafé, le lendemain matin, les gens sont allés fouiller les cendres et ont essayé de voir s'ils trouvaient des choses à glisser dans leurs poches. C'est comme ça que certains objets ont pu se retrouver dans les archives 50 ans plus tard.
Le jour du boycott juif, le 1er avril 1933, restera dans les mémoires, mais pas seulement dans l'histoire de la communauté juive. Récemment, l'humiliation et la dégradation des juifs ont progressé de jour en jour, comme celle des Noirs en Amérique. En tant que personne d'origine juive et prise de liberté, il me semble que vivre en Allemagne, si l'on n'y est pas absolument contraint, est devenu une impossibilité morale. je me suis résigné à l'idée que je ne reverrai plus jamais l'Allemagne, ma patrie, même si cela me cause une grande souffrance émotionnelle.
On se trouve actuellement devant l'immeuble où habitait Hirschfeld pendant une année et demie à son arrivée en France en tant qu'exilé. On est sur l'avenue Charles Floquet dans le 7e arrondissement devant un immeuble de standing. Et juste en face, si on tourne, on voit le Champ de Mars et à deux roues, la Tour Eiffel. Hirschfeld, comme tous les médecins réfugiés, était interdit de pratiquer de la médecine en France. Il avait quand même ouvert un cabinet de consultation pour donner des conseils plutôt psychologiques, accompagnement, mais pas de la médecine. Il a reçu, entre autres, Michel-Marie Poulain, qui est grand pionnière de la vie transgenre en France, artiste peintre. Il a beaucoup fréquenté les milieux de réfugiés. Il en avait pas mal. Et donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour son courage. Il a essayé de reconstituer son travail en France, à recommencer ses recherches, à rédiger des articles et des livres. Hirschfeld avait deux compagnons à l'époque. Voilà un homme moderne, la polyamorie, déjà à l'époque. Il avait son compagnon d'assez longue date, déjà 2 ans ensemble à cette époque, Karl Giza, qui avait 20 ans de moins que lui. Et il y avait également avec Hirschfeld Li Shutong, son compagnon chinois, et il était étudiant en médecine. Li Shutong avait 30 ans de moins qu'Hirschfeld, donc il a attiré les admirateurs de Daddy. Et finalement, après un an à Paris, Karl Giza draguait un mec dans une piscine publique à Paris, et Giza était expulsé de la France en tant que réfugié, pas du tout apprécié des autorités françaises. Et Hirschfeld, les 6 derniers mois de sa vie, s'est installé à Nice pour un climat plus agréable qu'à Paris. Et il est mort le jour de son 67e anniversaire à Nice.
Le 14 mai 1935, Magnus Hirschfeld disparaît avant de connaître l'étendue de l'horreur nazie. Dans les années suivant le pillage, nombre des employés de l'Institut partent en exil, sont déportés ou se suicident comme son compagnon Karl Giese qui se donne la mort en 1938. Après la Seconde Guerre mondiale, le paragraphe 175 reste en application et les hommes homosexuels continuent d'être envoyés en prison jusqu'aux années 70, avant son abolition en 1994. Longtemps tombé dans l'oubli, Hirschfeld laisse derrière lui des archives éparpillées, riches et ambiguës, marquées par son activisme et ses visions progressistes, mais entachées par son adhésion aux thèses eugénistes, par le racisme ordinaire de son époque et par le contexte colonial qui a produit nombre de photos et documents exposés par son institut.
Il faut vraiment attendre les années 70 avec le mouvement de libération gay et lesbien pour que son nom réémerge. Et petit à petit, je pense qu'il a été investi aussi par la jeune génération, parce que ce qui paraissait et qui peut paraître aujourd'hui encore très anachronique, la manière dont Hirschfeld pensait l'homosexualité, ses théories médicales, enfin le vocabulaire aujourd'hui est sans doute complètement désuet et dépassé. Mais Hirschfeld s'inscrivait dans une vision finalement assez fluide des genres, des sexualités. Ça a des résonances aujourd'hui avec la manière de penser une communauté LGBTQI+. Donc ce qui faisait de lui quelqu'un qui paraissait à un moment donné peut-être totalement anachronique, retrouve une certaine pertinence aujourd'hui.
Aujourd'hui, en Allemagne, on a tendance à vouloir dresser un portrait très iconique de Magnus Hirschfeld. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un personnage complexe et qu'il avait aussi des idées qui se rapprochent énormément de l'eugénisme. Et ça, c'est quelque chose qui est assez tube. Hirschfeld a aussi des idées très arrêtées sur plusieurs phénomènes sociaux, par exemple sur le travail du sexe qu'il considère comme une dégénérescence. C'est son mot, c'est vraiment son expression. Et certes, c'est un moment d'émancipation au sein de la République de Weimar. Il ne faut pas oublier que c'est quand même très médical, très pathologisant.
On peut certainement dire que Hirschfeld était à la fois un visionnaire et un homme de son temps. Il était impliqué dans différents aspects de la médecine, de la science, de la politique de son époque, qu'on trouve actuellement inacceptable. Oui, il a cherché à utiliser des documents, des photos, etc., requis par des anthropologues qui étaient assez colonialistes. Mais en cherchant à les détourner, est-ce qu'il a réussi? Je crois que non. Si on traite Hirschfeld de raciste, bah oui, il était un homme blanc, mais juif, allemand, des classes moyennes de son époque. Et en fait, en retraçant l'évolution de sa pensée, la longue de sa carrière, il a évolué de racisme ordinaire de sa classe et de sa période historique vers un critique de plus en plus sophistiqué des prétendues sciences de la race, pour terminer avec son dernier livre, Le racisme, où il fait l'effort de démanteler le racisme des eugénistes, des impérialistes, des nazis. Et il a dit clairement que ben, les nazis sont un aspect du développement du racisme, d'impérialisme qu'on a vu depuis le XVIIIe siècle. Et ça veut dire qu'à la fin de sa vie, il est devenu carrément anti-impérialiste. Il a dit qu'il n'y a pas d'une échelle de civilisation entre les différentes cultures, il y a juste des différences. Et pour moi, si on parle d'Hirschfeld, mais il n'est pas un saint, il était un homme, il était une personne ordinaire. Il a fait des choses extraordinaires, il a fait des erreurs d'après nous, il a fait des erreurs d'après lui quand il regardait les changements de sa politique et sa pensée la longue de sa vie. Mais pour moi, ça exige pour nous que de nos jours, nous restons assez humbles. Parce que si j'imagine que je suis en train de faire des propos, dans 100 ans, qui on s'intéresse à mes propos, on va trouver des choses inexplicables, inimaginables, clairement pas correctes. Et donc, les erreurs d'Hirschfeld ou les ondes troubles de son travail, pour nous, ça fait en sorte que moi, je cherche à trouver un peu d'humilité moi-même en disant, nous aussi, on n'est pas arrivé à l'analyse correcte, on est arrivé à l'analyse de nos jours.
And it's not about creating heroes.
Il ne s'agit pas de créer des héros.
It's more about...
Il s'agit plutôt de savoir ce qu'ont fait les générations précédentes et ce qu'elles n'ont pas fait, et où elles ont échoué, afin que nous puissions éventuellement apprendre aujourd'hui comment améliorer les choses.
Was will man nur? Ist das Kultur, dass jeder Mensch verpönt ist?
Merci à Romain Pinto, Gérard Koskovitch, Florence Tamagne, Ralph Dozeux et Agathe Bernier-Monod. Lecture des écrits de Magnus Hirschfeld par Johannes Oliver Hamm et avec la voix de Romain Lemire. Prise de son, Cédric Chatelus, Alexandre Martin, Michael Simon et Bastien Varigo. Mixage, Valérie Lavala. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Magnus Hirschfeld, à la défense du troisième sexe. Un documentaire de Camille Desombres, réalisé par Julie Bérissy.
Wir sind alle anderer Welten Kind. Wir lieben nur die Lieder nach, die schwül ist, weil wir ja anders als die anderen sind.